Bon bah bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je pense que tout le monde plus ou moins connaît ces rendez-vous du mardi qui sont organisés ici à la Générale depuis un peu plus d'un an maintenant, un an et quelques mois, qui sont des rencontres interdisciplinaires, extradisciplinaires, hein, où vont se côtoyer différents champs d'études qui vont de l'artistique au scientifique, en passant par sciences humaines, sciences sociales et d'autres champs d'intervention. Ça peut être investigation, journalisme, activisme. Voilà, il y a différents profils. Et on se pose un ensemble de questions autour de l'écologie, technique, technologie. Donc aujourd'hui, c'est une session moi qui me tient particulièrement à cœur parce que déjà, on accueille Pablo Jensen, qui a la gentillesse de venir pour une intervention autour de son dernier ouvrage, voilà, que je montre, hein, qui sera un peu l'objet de l'intervention de ce soir, Deep Earnings, le néolibéralisme, donc l'heure des réseaux de neurones, qui est un petit opus qui est sorti en avril, je crois, de cette année, et donc qui fait une sorte d'analyse comparative sur l'origine des réseaux de neurones et l'influence de la pensée de Friedrich Hayek. Okay. Ça, c'est dans les grandes lignes, on pourrait préciser le coup, mais je pense que c'est aussi, pour moi en tout cas, c'était un peu l'opportunité de poser des éléments sur des thématiques structurantes ou des questions qui sont structurantes dans les différentes sessions qu'on a pu aborder, notamment autour de la blockchain, peut-être de cette idée de savoir comment le code peut être influencé par une idéologie, quelles sont les frontières poreuses qui vont séparer les deux. Et je pense que là, on a un cas d'étude merveilleux pour ausculter de manière pratique, documentée, cette influence entre les outils techniques d'un côté et l'idéologie de l'autre. J'en dirai pas plus, peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur suite des rencontres dans les semaines qui viennent, parce qu'on a des choses qui nous attendent dans les semaines prochaines. Mais voilà,
on me met des tartelettes aux abricots sous les yeux, là, bon. C'est exprès, là, de l'ouvrir, bon. Ok, donc je vais... Bon, super, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment sympa d'être ici, voilà. Même si fait au frais, voilà, c'est ça, exactement. Et donc, oui, je ne vais pas être trop long, mais je vais vous donner quelques pistes, quand même, de ce qu'il y a dans ce petit bouquin, qui est, en fait, un peu un accident ou une parenthèse sur un autre travail, en fait, qui était ce que je mets ici, disons, en fait, je viens de la physique, c'est pour ça que je suis dans un laboratoire de physique, mais j'ai fait une thèse expérimentale plutôt, donc sur du silicium amorphe hydrogéné, qui est un machin qui sert pour les cellules solaires, en fait, à l'époque. Et puis après, j'ai travaillé pendant 10 ans plutôt dans de la modélisation. Et après, je suis parti 5 ans dans un labo d'économie, parce que j'en avais un peu marre de la physique standard. Et après, j'ai commencé à travailler avec des sociologues et il y a eu la vague, en gros, du big data qui est arrivée à peu près au milieu de tout ça. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que les équations ou les mathématiques ou les modèles, quel est leur rôle dans la modélisation sociale? Et donc, j'ai fait un bilan après avoir travaillé une bonne dizaine d'années là-dessus. Dans ce bouquin-là. Et alors, je résume ça et mon passé de physicien de la matière avant en une seule diapo. Et on y reviendra si vous voulez, mais qui sera intéressante pour la fin. Donc, c'est pour ça que je montre. Donc, en gros, évidemment, de manière très simplifiée, construire, il y a une métaphore, on va dire, une analogie entre expliquer le monde pour les physiciens et dompter un tigre. D'accord. Donc, en gros, construire une explication physique, c'est comme transformer un tigre sauvage qui saute dans la jungle en un tigre dompté qu'on va faire sauter dans un cirque, dans un numéro de cirque, dans un cerceau de feu. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tigre sauvage, il faut évidemment le dompter et il faut lui apprendre à faire ça et sélectionner, stabiliser une partie des sauts potentiels. D'accord, le tigre sauvage, il fait plein de trucs, mais dans le cirque, il faut qu'il fasse seulement un certain nombre de choses. Et ça coûte cher en temps, en institution, en équipement. Et en gros, en physique, c'est pareil. C'est-à-dire, quand vous en avez parlé d'atomes, de quarks et tout ça, c'est toujours le tigre dompté. Et j'aime bien cette métaphore du tigre pour plein de raisons. Donc une, c'est que c'est la bonne, disons que ça accorde la bonne tension entre, on ne peut pas dompter n'importe quel animal, il y a des tigres qui se laissent dompter, des chiens mais pas des chats, etc. Et donc toute réalité ne se laisse pas dompter, et donc voilà, et donc il faut de la créativité dans les labos pour arriver à faire ça. Donc c'est le bon côté. Le mauvais côté, évidemment, c'est que le tigre dompté, il est jamais le tigre sauvage. On le transforme toujours, et on le transforme d'une manière qu'on a choisie. Et donc ça, c'est assez différent de découvrir le monde. Ou découvrir le monde, on se dit juste, on découvre un truc qui existait déjà, on n'a aucune responsabilité, on a juste découvert un truc qui était de toute façon déjà là, quoi. Donc le chercheur, alors que là, on va dompter le tigre d'une manière ou d'une autre. Et donc on a une certaine responsabilité dans la manière dans laquelle on le dompte. Mais on parle toujours de la nature, donc tous ces trucs philosophiques sur c'est le vrai monde, le monde réel, la physique, etc. Je trouve que cette image-là, elle marche assez bien. Et puis surtout, pour tous les expérimentateurs le savent, et c'est bon de toute façon à garder en tête pour la technologie, le tigre, il a toujours envie de retourner sauter dans la jungle, quoi. Et donc c'est pas parce qu'on croit l'avoir dompté que peut-être qu'un jour, il va pas faire ce qu'on attendait de lui et que ça va mal se passer, quoi. Donc voilà, en gros, la physique, évidemment, c'est caricatural, mais en intransparence, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Et donc, intéressant aussi parce que c'est ça qui permet, quand on dit est-ce que la physique va pouvoir mettre la société en équation, comme certains de mes collègues le veulent, en gros, ce que ça veut dire, c'est que pour que les équations marchent, il faut que les humains soient domptés. Pour aller vite, disons, voilà. Les mathématiques et le modèle ne deviennent pertinents que sur un monde dompté, en fait. Et donc, voilà. C'est, pour aller vite, c'est ça que... Bon, en tout cas, j'étais dans ces choses-là, et puis quand je discutais du bouquin avec des journalistes ou avec d'autres collègues, plus jeunes que moi notamment, ils me disaient, on voit que tu as un certain âge, tu es physicien et que tu as un certain âge, parce que, en fait, plus personne ne veut mettre la société en équation, mais en algorithme, en fait. Et donc, c'est les algorithmes aujourd'hui qui sont intéressants, et il y a bien que les physiciens pour parler d'équation, c'est... Bon. Et effectivement, il y avait du vrai là-dedans. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est quoi les algorithmes? Finalement, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir un peu. Et surtout, les algorithmes, il y a des algorithmes qui ressemblent un peu à des équations, mais les algorithmes dont on veut parler, c'est les algorithmes qui apprennent, entre guillemets. Donc, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones qui commençaient déjà quand même à être bien établis et bien puissants. Et donc, voilà, le bouquin est né de ces questionnements-là. Donc, est-ce que peut-être avec les algorithmes, on va pouvoir mettre la société en équation? Est-ce que ça change vraiment quelque chose ou pas? Et puis, qu'est-ce que c'est que ces algorithmes? Est-ce que c'est vraiment si différent de la physique ou pas? Et donc, c'est de là qu'est né ce petit bouquin-là. Et alors, attendez, parce que je ne veux pas tout vous montrer tous les trucs. Hop. Voilà. Et aussi parce qu'il y a, juste pour résumer toujours avec des petites vignettes, la confiance qu'on avait en l'IA, il y a une blague qui résume ça bien. Donc une blague disait qu'à l'avenir, les avions se piloteraient tout seuls et qu'il n'y aurait dans le cockpit qu'un pilote et un chien. Donc le travail du pilote serait de rassurer les passagers en leur disant qu'il y avait bien quelqu'un à bord, un pilote à bord. Et puis le travail du chien était de mordre le pilote s'il essayait de toucher quelque chose. Parce que, on ne faisait pas... Donc c'était cette confiance dans l'IA qui était vraiment, quand même un peu étonnante. Et donc, suivant les conseils d'une collègue historienne des sciences, qui dit, quand tu te plonges dans un nouveau domaine, il faut aller voir les articles originaux, ce qu'on ne fait jamais en sciences dures, en tout cas. Mais j'ai quand même suivi son conseil, et donc je suis allé voir l'article de Frank Rosenblatt, donc qui est un psychologue, qui travaillait pour la marine des États-Unis et qui est publié dans une revue de psychologie en 58. Il présente le perceptron, et qui est en fait l'ancêtre des réseaux de neurones. Okay. C'est vraiment ça qui va... En fait, c'est le premier algo qui est capable d'apprendre, entre guillemets, je reviendrai après. Et donc, je vais juste, en trois transparents, vous montrer comment ça marche. D'accord ? Parce que tout le monde n'est pas au courant, et ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Donc, les réseaux de neurones aujourd'hui, le deep learning, tous les trucs comme ça, c'est en gros. Donc là, les collègues informaticiens ferment les yeux, parce que c'est un peu simplifié, mais quand même. Donc, en gros, on va supposer que ce qu'on veut, c'est avoir un bon signal en sortie. C'est le neurone, donc c'est les petits machins bleus, c'est des neurones. Et le neurone de sortie, on va essayer de faire qu'il se comporte comme on veut. Et il va recevoir, en fait, donc pourquoi on appelle ça un réseau de neurones? C'est parce que c'est des neurones connectés. Et on va supposer qu'il y a, donc c'est très simple, il n'y a que deux neurones en entrée et puis un neurone en sortie. Et les neurones d'entrée sont connectés aux neurones de sortie. et le neurone de sortie et reçoit un signal qui est égal à l'état du neurone multiplié par le poids que ce neurone va avoir, plus l'état du neurone 2 multiplié par le poids, l'influence que ce neurone va avoir. Et par exemple, si ce signal atteint une valeur de 1, S va s'allumer et va dire, tiens, il se passe un truc. Voilà. Bon. Les neurones, c'est soit éteint, soit allumé, donc 0 ou 1. C'est facile à faire avec des composants électroniques. Et donc, par exemple, supposons que E1 et E2 soient des détecteurs qui voient si les carrés que j'ai mis à gauche sont pleins ou blancs, enfin bleus ou blancs, et que si c'est bleu, le neurone s'allume parce que c'est un photodétecteur. Et donc, et qu'on veuille créer un détecteur pas très sophistiqué qui dit, qui va détecter si l'un ou l'autre des deux carrés est bleu. Okay, je veux un truc qui soit capable de me dire ça automatiquement. Et donc les deux neurones, vous voyez dans ce cas-là, par exemple, ils reçoivent un, enfin ils sont, celui d'en haut est allumé et l'autre non parce qu'il est devant le carré bleu. Et donc quel est le signal qui arrive sur mon neurone de sortie? Ben, c'est 1 fois 1 plus 0 fois 1, donc ça fait 1 et donc il s'allume. Et donc vous pouvez constater que si les deux carrés sont blancs, ça ne va pas s'allumer parce qu'il reçoit 0 et donc ça marche. J'ai bien une fonction OU. Mais vous voyez, le truc, c'est que j'ai dû mettre à la main les valeurs de P1 et de P2. Je dois dire, c'est 1 et 1. Si j'avais mis 0 et 0, par exemple, ou 0 et 1, ça n'aurait pas marché. D'accord ? Et donc, là, c'est ce qu'on appelle l'intelligence symbolique. On doit, à la main, créer la bonne manière de faire le réseau. Et ce que propose Rosenblatt, c'est justement un mécanisme pour apprendre quelle est la valeur de P1 et de P2. Et donc, comment on fait ça ? Eh bien, en fait, on part de valeurs aléatoires, mettons 0 et 0, et il y a une petite formule, bon, qui aujourd'hui est plus compliquée que ça, mais quand même la base, c'est à peu près ça, c'est qu'on va montrer des exemples à ce réseau-là. Donc, par exemple, je lui mets les deux bleus, et supposons qu'on parte de 0 et de 0. À ce moment-là, vous voyez que j'ai 1 et 1. 1 fois 0 plus 1 fois 0, ça fait 0, et donc le neurone de sortie, il ne s'allume pas, alors que j'ai bien des carrés bleus. D'accord, j'ai bien l'un ou l'autre qui est bleu, enfin, j'ai même les deux qui sont bleus, donc ils devraient s'allumer. Et donc on va dire au réseau, là tu t'es trompé, c'est pas la bonne réponse. Et donc le réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer les valeurs de P1 et de P2 avec une petite formule qui est le changement est égal à moins l'erreur fois la valeur du neurone. Bon, faites-moi confiance, vous voyez, c'est juste une multiplication. Si vous faites ça, par exemple, si vous prenez P1, le nouveau P1, puisque c'est le changement, c'est le nouveau P1, va être égal à l'ancien P1 plus l'erreur fois E1, et donc ça fait 0, etc., et ça devient 1 avec cette formule-là. Okay, bon, vous regarderez ça à tête reposée, mais c'est pas compliqué. Ça, et donc, dès que vous lui montrez cet exemple-là, P1 et P2 valent 1, et après, quand vous lui montrez un exemple qui marche, et bien à ce moment-là, le réseau ne fait rien, puisque vous voyez, si l'erreur vaut 0, et bien à ce moment-là, il n'y a aucun changement. Et donc, avec une petite formule comme ça, vous montrez quelques exemples, et le réseau va apprendre tout seul à faire où, enfin à faire ce que vous lui dites de faire, quoi, où et enfin. Donc ça, c'est l'idée. Alors aujourd'hui, c'est bien plus compliqué que ça, mais vous voyez, quand on apprend à des réseaux à identifier des chats ou des chiens, c'est la même idée. C'est-à-dire, vous avez un réseau qui a des millions de, par contre, de millions de liens, et vous lui montrez un chien, et vous lui dites est-ce qu'il l'identifie ou pas, et bon, vous voyez, il itère comme ça, il arrive à faire ce truc. Bon, voilà. Ça, c'est le. Donc. Ça, c'est ce qu'a fait Rosenblatt, en simplifiant un peu. Mais, et donc, j'ai commencé à lire l'article de Rosenblatt, et c'est là que tout a dégénéré, en fait, parce que j'ai vu ce que dit Rosenblatt. Il dit, voilà, en gros, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ce mécanisme d'apprentissage? Eh bien, donc, il y a des gens comme Hebb, qui sont des gens qui travaillaient dans ce domaine-là, qui sont bien connus, des gens de domaine. Il y a HP aussi, qui était quelqu'un qui travaillait en cybernétique, mais il y avait ce Hayek, qui, moi, par mon parcours, en fait, bon, je viens d'Argentine et j'étais assez sensible. Enfin, ma mère était réfugiée politique, donc je connaissais quand même un peu toute l'histoire. Et je connaissais un certain Hayek qui avait déclaré dans un journal chilien que c'était bien Pinochet parce que lui, au moins, il respectait le marché, alors que Allende était peut-être démocratiquement élu, mais il ne respectait pas le marché. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, Hayek, ça doit être un nom très courant, donc il n'y a aucune relation entre les deux. Et puis, quand je suis allé voir un peu plus, quel était l'article cité en question? Ben, ce n'était pas un article, donc c'était un bouquin. Et c'était bien F.A. Hayek, et c'était bien mon Hayek, enfin celui que j'aimais tant. Voilà, et donc j'ai dit, tiens, mais comment ça se fait? Le fondateur des réseaux de neurones cite comme grande source d'inspiration ce bonhomme-là, quoi. Bon. Et donc, la question, ça a été... voyez, c'est un bouquin qui s'appelle The Sensorial, donc l'ordre sensoriel, et une enquête sur les fondations de la psychologie théorique. Hayek est connu comme un économiste, il a le prix Nobel, avec tous les guillemets que vous voulez, d'économie. Et dans ce bouquin-là, qui est assez pénible à lire, il faut bien dire, il n'y a pas un seul mot, une seule fois le mot économie, il n'y a rien sur l'économie. Okay? Et donc il y avait deux mystères, un c'est quel est le rapport entre ce truc-là et l'économie de Hayek, et deuxièmement, quel est le rapport entre l'économie de Hayek, le néolibéralisme, enfin les, tout, disons, les fondations théoriques et le néolibéralisme de Hayek. Vous voyez, il y a les deux questions voilà, que je me suis posées et que voilà, j'ai pris du temps pour creuser. Donc Hayek, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 1899-1992, Nobel en 1974. Donc il a sorti cette histoire sur Pinochet et vraiment c'est quelqu'un qui est qui a dans toute son œuvre économique après dit que les marchés c'était ce qu'il y avait de mieux, voilà, avec un grand thème en fait. Voilà, il s'embarrasse pas de petits détails, etc. C'est le marché, c'est presque un dieu quoi dans ses écrits. C'est un personnage assez inflammable, c'est-à-dire quand vous le présentez, je présente ce truc-là dans des labos d'économie ou de sociaux, etc. Il y a les pro-Hayek, les contre-Hayek, et c'est vraiment un personnage toujours aujourd'hui. Il y a des revues d'études hayekiennes, il y a des milliers d'articles sur Hayek. Je connaissais pas du tout ça, bon, j'ai plongé là-dedans un peu naïvement au départ, et bon voilà. Donc dans ces Sensorial, il n'y a aucune allusion à l'économie. Alors je vais un peu abréger parce qu'on est un peu froid, mais en gros, Hayek c'est un économiste classique jusque dans les années 30-40, mais il avait fait un stage quand même sur le cerveau avant, hein, donc il y a quand même un truc, mais on reviendra si vous voulez, mais dans les années 30-40, il y a ce qu'on appelle la controverse sur le calcul socialiste, qui est un truc où, vous voyez, on est après la Première Guerre mondiale, où beaucoup d'économies ont été planifiées pour la guerre. On est après la Révolution soviétique, donc économie planifiée. On est après la crise de 1929, où, en gros, l'économie décentralisée et capitaliste n'est pas au mieux de sa forme. Et donc, dans les années 30, les gens se disent peut-être qu'il faudrait planifier l'économie. Et des économistes néoclassiques démontrent même, en fait, c'est assez simple à imaginer, démontrent qu'une économie planifiée est au moins aussi performante qu'une économie avec les marchés. Et ça, Hayek, ça, c'est un truc qu'il ne peut pas supporter. Et donc, il dit, si l'économie néoclassique justifie la planification, c'est qu'il faut complètement casser l'économie néoclassique. C'est que l'économie néoclassique est complètement fausse. Et donc, il dit, il faut refonder toute l'économie pour qu'on ne puisse plus affirmer de telles choses. Et comment est-ce qu'on refonde l'économie? Eh bien, on la refonde à partir de la psychologie parce que, il dit, l'économie, c'est un moyen de coordonner des gens, et suivant ce que vous dites, ce que sont les gens, c'est-à-dire leur capacité cognitive, leur capacité de propager l'information, etc., ça vous détermine la meilleure manière de les coordonner, en fait. D'accord ? Et donc, il faut refonder toute l'économie, c'est pour ça qu'il a eu le Nobel d'économie, quand même. Hein. Donc, ça a été reconnu ensuite par ses collègues, mais effectivement, ça n'a rien à voir avec l'économie néoclassique des individus omniscients, et voilà. Et il le dit, voilà, il y a juste une phrase dans Sensorial, dans la préface, où il dit, c'est un problème avec le caractère logique de la théorie sociale qui m'a forcé à faire ça. Et c'est tout le reste, c'est du cerveau, des connexions, etc. Alors, je résume toujours. Donc, dans ce Sensorial, il dit, le cerveau, ce n'est pas une case mémoire et une case aux perceptions et une case mémoire où on va créer des symboles un peu comme on pourrait l'imaginer. C'est tout est dans des connexions. Il y a toute une vague, il n'est pas tout seul là-dedans du tout. Mais en gros, il dit toute l'information que nous recevons et qui nous permet de nous orienter dans le monde, c'est-à-dire de construire un ordre sensoriel à partir de l'ordre physique, c'est tout sous forme de connexion, en fait. Le cerveau, quand vous vous coupez, si vous prenez un couteau ici et puis vous vous coupez, le cerveau, il voit à la fois la douleur, il sent la douleur et il voit que le couteau vient de me couper, donc il associe les deux dans les neurones. Et il dit, si, il y a une corrélation entre les deux, donc il renforce les neurones, enfin, etc. C'est très compliqué, hein, mais c'est quand même ça à peu près ce que dit Hayek. Et donc, juste avec des connexions, on peut s'orienter dans le monde et avoir un rapport efficace, on va dire, et pas au monde. Et donc, c'est cette vision connexionniste du cerveau qui ensuite a inspiré Rosenblatt. Vous voyez, le cerveau apprend juste en ayant des exemples. Et en gros, la fonction objective, c'est de ne pas trop se faire mal pour nous, Oui, bon, ça serait un truc un peu comme ça. Donc c'est ça qui a inspiré Rosenblatt. Donc vous voyez, la citation, elle s'explique comme ça, mais maintenant la question, c'est quel est le rapport entre cette psychologie théorique connexionniste et le néolibéralisme, en fait, de Hayek. Okay. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que le fait que notre moyen de mettre de l'ordre dans le monde, c'est que par des connexions, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les connaissances qu'on a du monde, elles sont tacites et assez... on ne peut pas bien les expliciter, on ne peut pas en faire des symboles qui seraient faciles à communiquer. Et il y a beaucoup de choses qui restent tacites et même inconscientes, en fait. D'accord ? Notre rapport au monde, en fait, notre psychologie théorique d'après Hayek fait que le rapport au monde qu'on a nous laisse dans une ignorance assez forte. D'accord ? Et donc, on est des êtres très imparfaits. Hayek dit souvent, par exemple, avant de commencer à se demander pourquoi les gens se trompent, comme dans l'économie comportementale, des fois, vous voyez, les biais, etc., il faudrait se demander déjà pourquoi, des fois, on n'en se trompe pas, en fait. C'est ça qui est quand même à la base, et il a raison. En fait, il a tout un volant qui est assez dévastateur d'une économie formalisée, mathématique, néoclassique, d'informations parfaites et complètes, tout ça, et il va, toute cette psychologie de Hayek détruit complètement tout ce volant-là de l'économie classique, si vous voulez. Et donc, cette psychologie théorique permet effectivement de faire jouer un rôle important à l'ignorance. Et c'est l'ignorance, pour Hayek, qui est au cœur de l'économie. Et le rôle du marché, ça va être d'explorer et d'aider les gens ignorants comme ça à se coordonner. Et à rendre la planification centralisée impossible, en fait. Parce que qui dit planification centralisée dit transport d'informations et d'informations... sur les préférences des agents. Et comme les gens ne savent pas leurs préférences, ils les découvrent en tâtonnant, etc. Voilà. Donc, évidemment, l'œuvre de Hayek est quand même assez riche et assez fascinante. Ça vaut bien mieux quand même que les phrases sur Pinochet, même si c'est cohérent avec le reste de ce que... Voilà. Et donc, ordre sensoriel, psychologie théorique, assez réaliste, connexionniste. Et donc, toute une critique de la formalisation et de l'économie classique est très bien. Mais... dans le contexte de la guerre froide, Hayek, il veut vraiment absolument prouver que la planification, ça ne marche pas et que le marché est bien mieux. Et donc, il va aller au-delà de ce que sa psychologie théorique permet de dire à peu près et de dire que le marché est meilleur que toute autre alternative. Il le dit très, très clairement. Voilà. Donc, cette idée que l'ignorance profonde est vraiment au cœur de la vie sociale, il n'est pas le seul. Il y a Keynes, il y a Knight, il y a Polanyi. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment... vraiment intéressant, mais donc on pourra creuser ça si vous voulez, sinon je passe. Et puis, ce qui est peut-être plus intéressant, parce que c'est là qu'on rencontre l'IA, c'est est-ce que le marché c'est une solution ? Et Hayek dit, seules les règles du marché sont capables de coordonner des individus ignorants, comme ceux-là, enfin disons, à l'intelligence très imparfaite, de construire une société complexe aussi, enfin, moderne aussi complexe. Vous voyez, parce que l'information elle est très éparpillée partout. Chacun d'entre nous ne connaît qu'une toute petite partie de comment on fait un ordinateur. On est perdu. Et donc, il faut vraiment des mécanismes qui nous coordonnent. Et les règles du marché, dit Hayek, comment est-ce qu'on a pu les inventer ? Et là, pareil, il faudrait beaucoup discuter de ça. Il dit que c'est doublement spontané, en fait. Il y a deux ordres spontanés qui ont créé les règles du marché qui nous permettent de nous coordonner. C'est-à-dire que... d'abord, c'est une évolution style Darwin qui a fait que, en gros, les civilisations tentaient des trucs, il le dit un peu comme ça, tentaient des règles un peu au hasard, et que celles qui trouvaient les meilleures règles, en fait, elles produisaient plus de population, soit elles battaient les autres dans des guerres. Et en gros, celle qui a gagné, c'est celle qui a créé les marchés, quoi. Et donc, c'est une évolution darwinienne, mais vraiment très, très réductionniste et très, très biaisée, d'ailleurs. Donc, ça ne marche pas du tout, le Darwin, pour le social, hein, mais je ne m'étends pas là-dessus non plus. Et ces règles du marché, en fait, personne ne les comprend, peut-être Hayek un peu, comment ça peut nous permettre de nous coordonner. Et en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est, en gros, voyons, on devient comme des neurones où on n'a qu'à suivre un petit peu ce que les poids auxquels on est connecté. Et le poids, vous voyez, ça va être les prix. Donc, je vous montre ça de manière un peu schématique ici. Vous voyez, à gauche, vous avez, c'est ça le parallèle entre les réseaux de neurones et le marché, d'accord, pour résumer. Donc à gauche, vous avez les réseaux de neurones, donc il y en a plein, et je me concentre juste sur un neurone. Comment est-ce qu'on va être sûr que ce neurone-là va s'allumer et s'éteindre au bon, disons, pour satisfaire la fonction objectif, Hein, bon, on n'est jamais sûr, vraiment, en fait. Hein, ceux qui font des réseaux de neurones le savent, mais bon, n'empêche qu'on a trouvé quand même des assez bonnes règles. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage ou le dressage, ça serait un peu un meilleur terme. En gros, on va présenter des exemples et on va dire au réseau oui, non, oui, non, oui, non. Et à la fin, vous voyez, on va faire émerger tout un ensemble de poids, W1, W2, enfin bon, tous les liens et les influences entre neurones. Et si on a bien choisi le réseau, si on a bien choisi la base de données, si, à la fin, on a effectivement spontanément fait pousser, on va dire, un réseau avec des poids qui vont satisfaire à la fonction objective, c'est-à-dire que le réseau va être capable de reconnaître des chiens, va être capable de reconnaître des amis dans les photos, etc., etc. Et pour Hayek, il y a un parallèle très clair et très profond entre ça et le marché où, en fait, les agents représentent les neurones, donc que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, et vous voyez, ce qui va jouer le rôle des poids, c'est les prix. Et en fait, les règles du marché, en gros, les mécanismes d'enchères ou les mécanismes qui régulent les échanges offres et demandes vont faire que de ce truc-là, alors de manière complètement magique pour Hayek parce qu'il ne l'explicite jamais, il sort des prix, donc par exemple, qui sont des signaux, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on découvre l'exemple qu'il donne, c'est si on découvre une mine de manganèse quelque part, le manganèse va être plus... il va y en avoir plus, et... Si dans un processus industriel, on peut utiliser l'aluminium ou le manganèse de manière équivalente, eh bien, en fait, comme il y a plus de manganèse, le prix va baisser. Et donc, les gens vont, par ce signal-là, dire ah ben, je peux substituer de l'aluminium pour du manganèse et donc je vais utiliser de manière meilleure mes ressources. Donc, bon, ben, ça vaut ce que ça vaut, mais il ne rentre jamais plus que ça dans les détails. Mais vous voyez qu'il y a un bon parallèle entre les agents. Maintenant, l'agent n'a plus à réfléchir. En fait, il n'a qu'à suivre ce que les prix lui disent de faire. Okay? Et donc, les agents deviennent des neurones, en fait, quelque part. Et à ce moment-là, ça marche. Mais, la phrase je reviendrai sur la critique après. Je voulais juste faire une toute petite incise ici, parce qu'il y a un truc intéressant, là, si vous réfléchissez sur... on appelle ça machine learning, donc apprentissage machine, et on utilise ce verbe d'apprendre, qui est un verbe quand même très humain, alors qu'on se dit, tiens, est-ce que les machines sont vraiment capables d'apprendre? Et là, en discutant avec un collègue philosophe là, qui s'appelle Sacha Love, là, qui est à Lyon 3, enfin dans une fac de philo, qui est un spécialiste de Simondon, et peut-être que ça peut vous intéresser, parce que sur toute la technique et tout ça, Simondon est quelqu'un d'assez précieux. Alors bon, c'est un peu brut hein, ce que j'ai mis là, mais en gros, ce que dit Simondon, c'est que... il faut distinguer le dressage et l'apprentissage. Donc la machine, on la dresse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Dressage, ça veut dire une conduite de plus en plus stéréotypée. Donc il y a bien une adaptation et on change la conduite, mais c'est une conduite de plus en plus stéréotypée et une liaison de plus en plus étroite avec le milieu déterminé, c'est-à-dire la fonction objective et l'environnement, les images de chiens, ce que vous voulez. Donc ça, c'est machine learning, mais bon, il faudrait appeler ça plutôt machine, je ne sais pas, taming, ou je ne sais pas comment il faudrait dire ça en anglais. Et donc, au contraire, l'apprentissage, ça augmente la disponibilité de celui qui apprend, à ça je cite Simondon, par rapport aux différents milieux dans lesquels il se trouve, en développant une richesse de symboles et de dynamisme qui intègre l'expérience passée selon un déterminisme divergent, au sens où on peut se mettre en question soi-même ce que la machine ne peut pas faire. Okay? Et il dit, cette capacité d'être soi-même, un des termes du problème que l'on a à résoudre, n'existe pas pour la machine. Pour la machine, le signal, c'est quoi ? Le signal, c'est la différence entre le but poursuivi et le résultat effectivement atteint. D'accord ? Donc, on me dresse pour reconnaître des chiens, et bon, je ne suis pas encore bien capable, et le signal, c'est cet écart-là. Et c'est ça qu'on essaye de combler. D'accord ? Alors que, en commandant un fonctionnement qui diminue l'écart qui a causé le signal, cette causalité réactive adapte la machine, mais dans le cas de l'individu, le signal n'est pas celui d'un écart entre le résultat effectif et le résultat visé. Et c'est là où c'est assez subtil, donc c'est une dissymétrie entre deux finalités, l'une réalisée sous forme de structure, donc celle qu'on a apprise à un moment donné, et l'autre immanente à un ensemble d'informations encore énigmatiques et pourtant valorisées. En fait, c'est ça, vous voyez, c'est le truc de... On ne sait pas encore tout ce qu'on veut, mais on sait qu'on ne veut pas ça, quelque part. Donc la différence entre ce que je suis et ce que j'aspire à être, ou ce que l'on me fait être et ce que je refuse d'être, et donc... On n'a pas besoin d'avoir une fonction objective bien définie pour sortir d'un comportement de dressage, si vous voulez. Donc, c'est ça assez intéressant sur la différence entre dressage et apprentissage sur le machine learning. Alors, avant de résumer quand même, pardon, je vais quand même dire un petit truc. Donc, alors attendez, pardon, parce que j'avais un autre... Ouais, non. Donc la question c'est Hayek, donc ce parallèle que fait Hayek entre le cerveau et le marché. Donc quels sont, disons, l'intérêt que ça a, c'est qu'effectivement un cerveau connexionniste ou un réseau de neurones est capable de mieux appréhender la complexité du monde que l'IA symbolique ou les équations, si vous voulez. D'accord ? C'est-à-dire que reconnaître un piéton dans une image, par exemple, c'est quelque chose qui dépasse ce qu'on peut expliciter. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne sait pas résumer ça à, ou à un chat, si vous voulez, qui est l'exemple le plus courant. On ne sait pas dire explicitement des règles qui permettraient de reconnaître un chat. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a des oreilles, des moustaches, etc. On peut faire une liste aussi longue que vous voulez, ça va pas marcher, en fait. Moins bien que, en tout cas, que les réseaux de neurones. Donc, cette capacité à apprivoiser la complexité du monde, elle est plus forte, effectivement, avec des réseaux de neurones qu'avec de l'IA symbolique ou avec des équations. Et donc, ça, effectivement, le marché, c'est quand même un outil avec la concurrence et l'exploration. Il y a quelque chose là qui permet d'explorer une complexité qui est difficile à expliciter. Et donc, ça, je pense que le côté critique de Hayek est intéressant. Après, est-ce que les prix déterminés par les marchés sont efficaces au sens où on va avoir quelque chose qui va être bénéfique pour le système? C'est ce que dit Hayek, que quand on a des marchés, ça bénéficie, c'est bénéfique pour le système. Ben ça, c'est... Il n'y a rien de clair là-dessus. Il ne le montre pas du tout, en tout cas. Et en fait, le parallèle de Hayek, c'est une formule qui a été trouvée par Mirovsky, c'est de l'IA, mais de l'ignorance artificielle. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment une politique de l'IA au sens où, vous voyez, les humains deviennent des neurones d'un réseau. Et c'est un peu comme dans le néolibéralisme, on a des indicateurs et puis on n'a qu'à suivre les indicateurs, bon, les chercheurs, le taux de publication, ou comme on voyait ici dans cette image-là, quoi. On a des signaux et puis on doit réagir à ces signaux parce que c'est eux qui nous mènent dans la bonne direction. Et surtout, il ne faut pas qu'on a droit à avoir une sorte de connaissance locale de notre petite bulle pour la concurrence économique, mais on n'a pas le droit d'utiliser notre connaissance sur l'ensemble, en fait, et de remettre en cause l'organisation du marché. Parce que cette organisation du marché, c'est quelque chose qui est issu d'une longue évolution naturelle, soi-disant darwinienne, et donc ça a été sélectionné comme une forme bien meilleure que tout ce que nous, on pourrait imaginer, construire. Donc il ne faut surtout pas remettre en cause cette organisation-là qui est bien plus intelligente que nous. Vous voyez, nous, on a une intelligence quand même très limitée avec notre pauvre cerveau connexionniste. D'accord ? Et donc, c'est assez intéressant, dans le discours de son prix Nobel, Hayek dit « Si l'homme ne veut pas faire plus de mal que de bien dans ses efforts pour améliorer l'ordre social, il devra apprendre que dans ce domaine, donc l'ordre social, comme dans tous les autres où prévaut une complexité organisée, d'accord, donc une société très complexe, mais même le vivant, il ne peut acquérir la pleine connaissance qui permettrait de maîtriser les événements. Il devra donc utiliser les connaissances qu'il peut acquérir, non pas pour façonner les résultats, comme l'artisan façonne ses objets, mais plutôt pour favoriser la croissance en lui fournissant l'environnement approprié à la manière du jardinier pour ses plantes. » Et donc, il dit, il ne faut surtout pas arriver avec une constitution ou avec la planification ou avec le communisme ou avec même Voltaire, il dit, ou Rousseau, ou tous ces gens-là qui essayaient d'imaginer des systèmes politiques. Ça, c'est le pire qu'on puisse faire parce que voilà, c'est comme le jardinier qui voudrait faire pousser sa plante en tirant dessus. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas tirer sur la plante, il faut juste donner un environnement, il faut arroser, il faut mettre un peu d'engrais éventuellement, il faut l'ensoleiller, etc. Et de la même manière, la société, on doit la construire juste avec, donc, changer un petit peu une règle de droit par-ci, une règle de droit par-là, améliorer la concurrence, etc., mais toucher le moins possible parce que c'est un truc trop complexe pour nos grosses pattes, quoi. C'est ça qu'il dit. Et ce qui est rigolo, c'est, je ne sais pas si tu connaissais Mathieu aussi, mais il y a la même métaphore chez Pedro Domingos, là, qui est un spécialiste des réseaux de neurones. Il dit dans la programmation classique, c'est comme les ingénieurs, on doit tout construire à partir de zéro, alors que l'apprentissage s'apparente davantage à l'agriculture qui laisse la nature faire la majeure partie du travail. D'accord ? Quand vous essayez de faire un truc qui reconnaisse les chiens, si vous devez écrire à la main tous les critères, donc ça ne marche pas. En revanche, vous mettez votre réseau ici. Bon, alors, ça demande beaucoup d'énergie, c'est juste plus compliqué que ça. Mais effectivement, spontanément, quelque part, ça va se faire. un peu comme la plante pousse spontanément. Et ce truc de spontanément, donc je ne l'ai pas vraiment travaillé, mais ça vaudrait le coup d'y réfléchir. Je pense que c'est une piste intéressante aussi. Je sais pas, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont lu Baptiste Morisot, donc, qui est un philosophe qui est maintenant très connu. Et si vous regardez dans ses bouquins, il y a spontanément presque à toutes les pages, en fait. Parce qu'il faut la dynamique du vivant se faire, il faut spontanément, le vivant a tendance à foisonner les braises du vivant. Vous voyez, on ranime les braises du vivant, on n'essaye pas de recréer de la biodiversité. D'accord ? Et donc il y a tout ce truc-là sur la spontanée qui est quand même beaucoup plus subtil chez Morisot que chez Hayek, mais qui est quand même intéressant sur cette complexité du monde à laquelle on est quand même assez réceptif. Donc je passe sur le parallèle entre ceux-là qui marchent même pas bien vraiment chez Hayek, parce que le prix est pas aussi facile à mettre en parallèle avec le poids. Et donc je reste juste sur cette idée d'ignorance artificielle et le fait qu'on est vraiment très loin du libéralisme de départ, parce que c'est Foucault qui dit ça en fait. Foucault dit l'individu néolibéral n'est plus cet atome de liberté respecté par le libéralisme face au pouvoir. D'accord, l'individu libéral, était quand même ce qui cimentait, enfin ce qui donnait la base à la société libérale, en tout cas en principe. Et chez les néolibéraux, il devient éminemment gouvernable en fait. Il répond systématiquement à des modifications que l'on introduit artificiellement dans son milieu. Donc c'est vraiment exactement ça. Et Hayek, donc dans La route de la servitude, il dit c'est la soumission des hommes aux forces impersonnelles du marché qui, dans le passé, a rendu possible la croissance d'une civilisation qui, sans cela, n'aurait pu se développer. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu pour clore. Et disons que cette phrase sur Pinochet, disons que c'est mieux d'avoir un dictateur libéral qu'un démocrate qui bride les marchés, c'est pas juste un dérapage. Il y en a qui disent, ouais, c'est parce qu'il est commencé à être un peu gâteux et puis il a dérapé. En fait, quand vous regardez vraiment son œuvre, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Donc c'est pas juste un dérapage. Et donc, juste pour conclure ici, donc Hayek, il a, à mon avis, une bonne critique de l'économie néoclassique, et y compris de la planification soviétique, au sens où on casse tout et on recommence tout à zéro. Bon, il a des bons arguments pour dire que c'est quand même pas... Bon, voilà, c'est dans le contexte de la guerre froide et tout ça, mais... Disons, voilà, il a une bonne, je pense qu'il a quand même des arguments intéressants côté critique. Et le fait que l'économie est quand même beaucoup basée sur l'ignorance des agents et que les agents économiques essayent de se repérer dans un truc qui est vraiment très compliqué et chercher de l'information comme ils peuvent. Mais voilà, après, il dit que le marché est meilleur que tout et qu'il ne faut pas y toucher. Bon, voilà. Et donc, il y a vraiment un lien. Le lien entre l'intelligence artificielle et le néolibéralisme, ça passe par ce côté autoritaire où les humains sont comme des neurones qui doivent juste obéir à la logique de marché, comme un neurone dans un réseau obéit au poids et aux influences des autres neurones. Alors, faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, enfin, je n'ai pas dit, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une sorte de tronc commun qui mène et au réseau de neurones et au néolibéralisme et au marché, on va dire, qu'ils sont forcément toujours collés ou que l'un est forcément au service de l'autre. Donc je pense que l'IA, c'est plutôt un côté moderniste, en fait, c'est-à-dire au sens centralisation des données et puissance de calcul. Donc ça peut être au service de régimes, pas du tout néolibéraux, mais tout ce que vous voulez, en fait. Disons, tout ce qui permet une centralisation de données et qui a une puissance de calcul va pouvoir profiter de l'IA. Okay, donc, c'est juste plus une inspiration commune, ce lien entre IA et modernisme. Et donc, si vous voulez, après, on pourra discuter de la gradation que je mets à droite là entre, si vous voulez, le projet moderniste qui est plutôt un peu le côté physique et équation, loi de la nature, où la complexité n'est qu'apparente et qui en fait c'est vraiment ce qu'il y a dessous, c'est vraiment les lois de la physique et tout ce qui est complexe est peu apparent. La complexité à la Hayek qui respecte un peu plus une complexité du monde mais qui est aseptisée au sens où on peut la dompter juste avec les marchés. Et puis ce que j'ai appelé la vision plus palpitante qui est... l'IA, l'intelligence humaine n'est pas l'IA connexionniste ni symbolique, et où il n'y a effectivement, on pense que la complexité est vraiment profonde et il n'y a rien qui permet de vraiment la dompter, il n'y a aucun mécanisme qui permet de la dompter, et ce qui s'en rapprocherait le plus, ça serait l'enquête à la Dewey, quoi, si vous voulez, qui est un mécanisme d'exploration collective de la complexité du monde, et voilà, qui est un mécanisme d'enquête, mais qui est beaucoup plus ouvert que le marché ou tout ça. Voilà, je pense que je commence à avoir les mains qui tremblent. Donc, on pourra, voilà, je lançais plutôt des pistes. Et puis, on pourra discuter aussi IA et mutation écologique qui me semble intéressant. Mais voilà, je préfère m'arrêter là. Et puis, on continue à discuter avec un petit peu de chaleur. Voilà, merci, merci pour l'écoute. Merci
questions, moi je peux distribuer de la soupe à ceux
yes. En fait, c'est ça.
Mais par contre, il faut quand même qu'on se concentre sur les questions.
En fait, c'est ça. On a droit à la soupe parce que si on pose une question, c'est ça. On suit les. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais je pense que je vais avoir un bol de soupe assez vite et je vais le mettre entre les mains. Là, ça va. Hop, je peux mettre les mains dessous, mais si c'est gentil. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Moi, j'ai des bouillottes tout le temps.
Une question.
Ouais.
Il m'a semblé en lisant la documentation, il y a dispo qu'il y avait,
il est derrière, le devant.
Il y avait une inversion de Hayek par rapport à l'interventionnisme, par rapport à la justice sociale.
Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. C'est le constructionnisme, en fait, ouais, c'est ça. Ouais.
Hayek disait même que la justice sociale mène à la dictature.
Ah oui, carrément, oui, totalement. Oui.
Comment il peut ne pas réaliser la contradiction entre la justice sociale qui mène à la dictature et le soutien du monde, par exemple.
Ouais, ouais, ouais. Attends, je peux avoir un petit peu plus de riz, s'il te plaît, peut-être. Ou alors peut-être je laisse ça, puis je veux bien plus beaucoup de riz et très peu de lentilles, en fait. Pardon ?
Réponse inattendue à la question.
Oui, oui, réponse inattendue, ouais. Bon, donc voilà, ma réponse est bonne. Non, effectivement. Non, non, mais...
Si tu ne veux pas de l'époque de la prise de parti pour
Pinochet,
est-ce que c'est compatible par rapport à sa...
Super, ouais, comme ça. Merci beaucoup.
Pour que le fonctionnement social corresponde à elle.
Ouais.
Est-ce qu'il aurait pu se rendre compte ou est-ce qu'il était complètement ailleurs?
C'est difficile de répondre à la place d'Hayek. Enfin, disons, moi, ce que je... Alors, je sais pas, hein, y a des gens qui passent leur vie académique à travailler que sur Hayek et encore le Hayek de la période de ceci à cela qui se spécialise dans des sous-périodes, parce qu'Hayek, il y a quatre périodes, normalement, etc. Donc, c'est... Et, en fait, c'est bien. Il y a un thésard en philo à l'ENS, là, avec qui je discute souvent, qui est très critique, mais qui, en même temps, est très... bienveillant par rapport à Hayek. Il y a beaucoup de gens comme ça, en fait, quelque part. C'est marrant. Moi, j'ai du mal à être bienveillant par rapport à Hayek, mais il y en a qui sont bienveillants et je pense que c'est bien aussi, parce que, voilà, il y a... Bon. Donc, en gros, je pense que pour Hayek, dictature égale communisme, c'est tout, en fait. Fascisme, c'était déjà un peu... Bon, fascisme et communisme, pour lui, enfin, Mussolini et tout ça, c'est Hitler, c'est un peu... C'est la même chose pour lui, en gros. Enfin, c'est dans le même truc. Et Pinochet... Enfin... Je pense que ce qu'il détestait le plus chez Hitler et chez Mussolini, c'est la planification, en fait, parce que c'est déjà une économie de guerre planifiée, etc. Et donc, c'est disons, la priorité, et je crois que Thatcher le disait aussi, en fait, que c'est que les libertés, c'est quand même essentiellement les libertés économiques qu'il faut respecter. Et les autres, c'est subordonné à ça, quand même. Donc, c'était ça, sa logique. Bon, évidemment, moi, je la trouve un peu difficile à justifier, ouais, c'est clair. Mais, disons, si j'essaye de mettre de la cohérence chez Hayek, c'est comme ça, en fait. C'est quand même l'économie qui est le lieu central et c'est ça qu'il faut préserver comme liberté. Et s'il faut en casser d'autres pour garder celle-là, et ben on peut le faire, quoi. Et puis après, de toute façon, il y a plein de contradictions chez Hayek aussi, parce qu'il dit voilà, il faut laisser la société évoluer, il faut pas intervenir. Mais en fait, lui, avec la société du Mont Pèlerin et avec tous ses bouquins, etc., il intervient constamment, en fait. Donc, en fait, dès qu'on creuse un peu, c'est pour ça que je trouve qu'il y a des gens qui sont fascinés par Hayek, mais je trouve... Alors, effectivement, je ne sais pas si vous avez lu Hayek, mais ça vaut le coup, parce qu'il y a vraiment des trucs où, moi, je me suis retrouvé plein de fois. Donc, je commence à lire une phrase, et je me dis, ah ouais, super, de critiques, par exemple, de l'économie néoclassique, et il y a des arguments qu'on retrouve chez les critiques de gauche. D'ailleurs, Elinor Ostrom est quelqu'un qui aimait beaucoup Hayek, qui cite souvent Hayek, hein, donc Ostrom est quand même, bon, quelqu'un qu'on aime bien, a priori. Et en fait, on lit des trucs, on se dit « Ah ouais, super, ta-ta-ta hein. ». Et puis, deux pages après, on se retrouve « Ah, en gros, le marché, c'est mieux que tout ». Et on se dit « Attends, où est-ce qu'on s'est fait avoir ?» Enfin, et c'est super, ça coule vraiment très bien. Et donc, il faut recommencer, relire le truc. Et moi, qui suis assez critique maintenant, venant de la physique vers les sciences sociales, j'ai je suis devenu assez critique du formalisme et des équations et des limites et tout ça. En lisant Hayek, ça m'a presque redonné le goût du formalisme, parce qu'au moins, Hayek, il a une rhétorique qui t'enturlupine vraiment très facilement, alors que si on essayait de mettre des trucs un peu carrés, un peu formels sur les marchés, comment est-ce qu'on peut démontrer que le marché, c'est mieux qu'autre chose, juste avec une phrase, bah là, c'est quand même plus difficile à faire avec du formalisme, enfin, en tout cas pour... Et donc Hayek m'a redonné presque un peu la nostalgie du formalisme, mais il est très fort quand même. Donc ça, enfin, c'est une expérience à faire, je trouve, quand même, que de lire quelques trucs de Hayek. Vous trouvez tout, il y a un site en ligne qui est très, enfin, néolibéral, je ne sais pas quoi, où il y a tout Hayek, en fait, libre d'accès. Donc c'est très facile, vous allez... Oui, c'est tout. vous tombez là-dessus, et ça, c'est un exercice assez intéressant à faire, en fait, quand même.
Donc la théorie de Hayek s'appelle le néolibéralisme.
Oh, c'est plus compliqué que ça. Alors là, néolibéralisme, c'est pareil, on pourrait passer 10 séminaires à définir ce que c'est. Il y a des gens qui ont beaucoup creusé ça. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas appeler ça néolibéralisme parce que c'est tellement contraire à l'esprit du libéralisme initial qui était contre les monarchies quand même, enfin, contre l'absolutisme. Et donc au départ, le libéralisme, bon, en tout cas, c'est, il y a une des versions, c'est insister sur les libertés... Des citoyens face à l'absolutisme. Et donc, c'est tellement contraire à cet esprit initial qu'il faudrait l'appeler une sorte de post-libéralisme. C'est pour ça que... Voilà. Mais après, ultra-libéralisme, post-libéralisme, après, je... En tout cas, ouais, c'est...
Ce qui est marrant, c'est que l'impression que ça donne... Tu vois, quand on veut remplacer... Quand on pense que la main du marché... réglera tous les problèmes, t'as l'impression que c'est juste des déplacements de problèmes. Puisque de penser qu'un système neuronal va aussi rendre compte de tout, alors que normalement, ce que tu disais sur un formalisme qui mène à des équations ne permet pas d'accéder à un certain niveau de complexité, tu fais que faire glisser un truc pour peut-être un problème qui sera encore plus grand. Et ça semble... Pas très facile à résoudre. D'ailleurs, le problème de l'économie, des matières que j'ai enseignées, c'est qu'à la fin, l'impression que ça m'en donnait, c'est que c'est une espèce de religion fondée sur rien, ou sur pas grand-chose, en tout cas. Alors, bien sûr, les mythes, c'est ça qui a l'air de gouverner le monde, en tout cas le monde puissant, puisque c'est les groupes qui adhèrent à des grands mythes qui ont pu prendre souvent la main sur des groupes qui se contentaient de vivre. Mais c'est vraiment, ouais, c'est que c'est comme tu as dit un truc qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, définir un chat, on n'est pas capable de le faire de manière formelle. Enfin, c'est moi qui rajoute aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, justement, on n'a pas assez d'outils, on n'a pas assez d'indicateurs, que dans 10 ans, ou 20 ans, ou 30, on sera pas même peut-être plus performant dans des définitions de bonne qualité que par un système qui laisse un apprentissage un peu au hasard, même si. La masse, enfin, juste parce que la masse d'un grand nombre d'erreurs n'en fait pas une vérité. Et d'ailleurs, tous ces bugs qui sont dénoncés aussi bien avec GPT-4 ou 3, qui poussent un avis médical à proposer aux patients suicide ou qui vont donner un surpoids à des théories racistes ou platistes parce qu'elles sont dominantes. Tu vois, enfin, c'est.
Voilà, oui, mais après, je pense que le fait qu'il y ait des choses qui dépassent ce qu'on sait expliciter, ça me gêne pas. Enfin, je pense que c'est assez bien vu, en fait. Et je vois pas pourquoi on devrait supposer que tôt ou tard, on finira par savoir expliciter tout. Je pense pas, en fait.
Et à quel moment et à quel échelle ?
Enfin, en tout cas, personne ne peut le dire, quoi. Donc, en attendant, ça me semble assez... Enfin, ça pousse un peu à la modestie de se dire, faut pas croire, parce que le côté... On va finir par tout expliciter, c'est le côté un peu physique et loi de la nature, quand même, et un peu moderniste, un peu... Donc, il y a... Ouais, vas-y.
J'ai un justement par rapport à ça. Quand tu dis les deux sont vrais, moi, c'est vraiment ce qui me semblait. Je trouve ça hyper intéressant, et le parallèle entre société, économie et informatique, sciences... sciences expérimentales, sciences exactes, tout ça. Mais justement, des deux côtés, tu as des choses, enfin, tu as des religions. Tu as la religion, le marché, tu as la religion, la planification.
Voilà, ouais.
Et puis, en informatique ou en sciences expérimentales, tu as la religion, les équations, le centraliser, le distribuer, et les réseaux de neurones.
Ouais, c'est ça.
Et tu as vraiment des religions, enfin, tu as vraiment des gens qui, comme dit, ça ne discute pas, quoi. Enfin, y a, c'est l'idéologie.
Ah, oui.
et en vrai, c'est les deux qui coexistent. Et dans les deux, on peut faire le parallèle aussi. En informatique, on sait très bien qu'il y a des choses qu'il faut distribuer, qu'il y a des choses qu'il faut centraliser, que ce n'est pas les mêmes choses, qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux, et que suivant ce qu'on veut obtenir comme résultat, on va faire l'un ou l'autre.
Ouais.
Et en économie, c'est pareil. Je pense que l'économie 100% planifiée, on est convaincu que ça ne marche pas. Une économie 100% marché, ça ne marche pas. Ça. et donc, c'est assez. J'avais l'impression qu'il y avait un espèce d'équilibre entre les deux, plus que ces religions. Quoi.
Oui. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on arrive à imposer, on va dire, un peu un équilibre si on veut s'en sortir, je pense, entre marché, planification. Il y a les communs aussi, il y a plusieurs trucs à explorer. Et la manière dont ça va se faire, ça risque d'être compliqué. Moi, ce que je trouve, là où j'arrive, moi, je me pose vraiment une question que je n'arrive pas à résoudre, c'est le rôle de l'IA. Parce que c'est un peu ça aussi, l'IA et la centralisation qui va avec pour la transition écologique, si tu veux, la mutation ou la crise ou la catastrophe, comme on voudra l'appeler. C'est-à-dire que tu as vraiment les deux côtés. Soit tu dis, de toute façon, cette accélération, etc., dont l'IA fait partie de centralisation et de contrôle, si tu veux, vraiment dans le mur, on a plein de raisons de le penser. Donc, en gros, il faut se débrancher, il n'y a pas de solution à ça. Mais à ce moment-là, je ne vois pas comment on pourrait être 10 milliards d'individus sur Terre en se débranchant du circuit industriel. Donc ça, je ne crois pas qu'on puisse. Et donc, si on reste là-dedans, en revanche, la société va être encore plus complexe. C'est-à-dire qu'elle est déjà super complexe aujourd'hui. Mais si, en plus, tu dois faire respecter des limites planétaires, émissions de carbone, consommation de ceci, de matières rares, ça va encore plus complexifier la société. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un rôle du numérique là-dedans pour nous aider à piloter ce truc complètement complexe, sachant qu'en plus, évidemment, ça consomme plein de terres rares et que ça émet plein de... ça fait peur, oui, bien sûr. Donc, les deux me font peur, si tu veux. Tu vois, c'est ça le problème.
Justement, si pour éviter l'autre, on compte sur le numérique...
C'est ça. Mais donc, je suis d'accord.
Non, mais il y a un truc de base. Si tu penses que les seules choses sont entre le marché, par exemple, ou le plan... Et c'est parce qu'aussi, si tu veux raisonner en termes d'une globalité, de société, par exemple, si tu acceptes le concept de société, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être, tu vois. Mm-hmm. Et c'est là qu'on est obligé de se mettre légèrement en retrait en disant peut-être qu'il y aura des choses qui resteront globales, mais peut-être qu'il y a des choses qu'il faut décider à des niveaux beaucoup plus faibles. Parce que pourquoi vouloir arriver à forcément une masse, en plus en se faisant un épouvantail de 10 milliards, en se faisant la croissance de population tend à baisser, si ça se trouve une extinction se produira, ou si ça se trouve la Terre elle peut porter 100 milliards de personnes sans trop de problèmes, ça dépend du mode de vie qu'elle adopte. Donc dire que c'est beaucoup plus complexe que d'essayer de résoudre facilement.
Ah mais ça je suis d'accord. Oui mais il faut bien qu'on fasse quelque chose quand même, il faut bien qu'on fasse quelque chose.
D'accord, mais ça serait beaucoup plus compliqué.
Qu'est-ce qu'il y a un lien entre ces histoires de poids qui sont censées influer les comportements et par exemple les théories comportementalistes de Skinner ces choses-là en fait qui visent à modifier à grande échelle en fait, des comportements par incitation par poids en fait,
Alors, peut-être deux choses. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais disons qu'Hayek, lui, ce qu'il cite pour le cerveau connexionniste, il dit, en gros, ce qu'il cite explicitement, c'est Pavlov, en fait, qui sont les expériences qui sont menées à cette époque-là, où on peut conditionner les chiens. Il y a du conditionnement comme ça qui marche très bien. Et donc ça, il dit, pour rendre compte de ça, il faut bien qu'il y ait un cerveau connexionniste. Donc, il fait le rapport assez facilement. Et donc, après, sur Skinner et le biobéhavioralisme, je pense qu'effectivement, on voit qu'il y a un côté un peu signal-réponse, en tout cas, input-output. Après...
En fait, c'est plutôt cette histoire de poids, puisque ces paramètres, en fait, selon le poids qui pèse, qui active ou pas l'agent. Du coup, si on continue cette idée qu'on le transpose, par exemple, à cette discussion de faire changer pour arriver à des conditions souhaitables. En fait, ça pose toujours la même question, c'est qui décide ce qui est souhaitable.
Oui, ouais, exactement.
Quoi qu'il arrive.
Ouais. Oui, avec les...
ça n'ira pas, quoi.
Mm-hmm. Ouais, c'est un peu le truc des nudges aussi, enfin, c'est ça, c'est le côté nudges, paternaliste des nudges.
De Bratton, avec l'idée d'une gouvernance et en fait, qui permettrait vraiment de piloter un peu
Oui, voilà, c'est plutôt ça, en fait. Oui, c'est ça. Oui, et puis la fonction objective,
effectivement. Il y a quand même un architecte, voilà. Mm-hmm. Il y a quand même un architecte. D'ailleurs, c'est un truc spontané, en fait, c'est n'importe quoi.
Oui, oui, je suis d'accord, tout
sur
à fait.
Sur les fonctions objectives, justement, il y a aussi un gros problème, parce que là, on parle beaucoup de l'IA comme un truc à résoudre des problèmes, et que du coup, il y a beaucoup d'espoir pour certains, de l'autre côté, parce que dans les mains de qui elle sera, etc. Mais en fait, ça sert à quoi l'IA aujourd'hui? C'est quoi les fonctions objectives de l'IA qui sont réellement qui sont réellement confiées à l'IA, hors des laboratoires, hors des... C'est quand même extrêmement dérisoire.
Oui.
Dire, on parle de reconnaître des chats, mais c'est vraiment, c'est à peu près ça, quoi. Il n'y a pas d'application industrielle de l'IA qui dépasse le niveau de la reconnaissance des chats, si on le situe sur une échelle où on mettrait entre la reconnaissance des chats et sauver le monde avant la catastrophe.
De protéines pour inventer des médicaments.
Ouais.
C'est élaboré comme traitement.
Oui. Mais ok, d'ailleurs, donc c'est quoi? C'est quoi la résolution du problème? La résolution du problème, c'est abaisser les coûts de l'industriel qui fait de la recherche. C'est pas du tout de soigner des maladies, d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'ils vont cibler des choses qui correspondent à des marchés, pour le coup, et où on sait qu'en plus, c'est des marchés solvables. Sinon, on ne lancera pas les IA là-dessus, on ne va pas se démerder à faire ça.
Le truc qui pourrait être, c'est que la SNCF, je crois qu'ils mettent beaucoup d'argent pour maximiser leur niveau de vente sur leur portail pour des tarifs ou des promos, et puis la décision immédiate pour la bonne personne. C'est les chiffres de la data qui vendent ça. Bon, après, je ne sais pas si SNCF qui sont responsables des réseaux, mais il y a quelques années, il y a eu 3 accidents sur les passages à niveau en quelques mois, avec une femme, une mère avec ses enfants, la voiture a été tamponnée, tout le monde y reste. Et là, personne, comment c'est possible qu'on ait une SNCF qui est capable d'avoir des accidents de train comme ça? L'IA aura peut-être pu aider à envoyer des signaux au conducteur de train, peut-être en amont, et puis rien que ça, c'est pas exploré. Et les seuls pays que j'ai vus qui faisaient ce genre d'exploration, des recherches très rapides, je suis tombé sur des chercheurs peut-être en Asie, en Chine, mais en France, où la SNCF, j'ai pas eu d'application pour sauver des vies, alors que c'est plus, comme tu dis, maximiser les profits plutôt que de sauver ou...
Bon, il y a toute une initiative qui s'appelle IA for Good, donc l'IA pour le bien. Bon. Alors c'est pas Elon Musk, mais c'est pas forcément tellement mieux. Mais non, je crois que c'est pas Musk, mais c'est d'autres gens. Mais c'est un peu dans la mouvance. Alors par exemple, un des exemples qu'il donne, parce que je connais pas en détail, mais un des exemples qu'il donne, c'est on va utiliser l'IA pour, en gros, montrer aux gens ce que va être leur maison dans 30 ans avec les changements climatiques qu'il va y avoir. Et donc, on va faire une sorte d'image virtuelle le plus réaliste possible de, sachant que, je ne sais pas, à Paris, la température va monter, je ne sais pas, de 5 degrés l'été et qu'il n'y aura plus d'eau, etc., machin truc. Voilà à quoi ça va ressembler ou s'il y a des inondations. Enfin, donc, ils veulent partir d'images réelles aujourd'hui et les transformer avec le truc du changement climatique pour rendre les gens conscients de ce qui va se passer, rendre plus palpable le changement climatique. Bon, c'est un des exemples que j'ai trouvé. Bon, c'est pas... Mais bon... Je crois que c'est Facebook. Ouais. Enfin, il y a Facebook dedans, je crois.
Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'IA, sachant qu'il s'agit juste d'une superposition entre une donnée, l'augmentation du jour, et éventuellement de la réalité augmentée par rapport à la maison? En quoi c'est
cet exemple-là.
Oui, oui, cet exemple. Bah, d'après ce qu'ils disent, en tout cas, c'est que, en gros, pour apprendre à transformer, à passer de l'image aujourd'hui à dans 20 ans, ils vont apprendre ça sur des images sur lesquelles ils ont, enfin, sur lesquelles on sait ce qui s'est passé, soit c'est dans le passé, soit parce qu'on l'a fait de manière à la main, quoi, un truc comme ça. Et donc après, une fois, c'est-à-dire ce que l'IA permet de faire, c'est d'automatiser des trucs qu'on a explorés déjà une fois, quoi. Enfin, on a exploré localement. Ah non, c'est pas à faire un truc réaliste, c'est juste faire une image qui a l'air réaliste. Mais effectivement, c'est pas du tout de simuler les processus physiques. Mais enfin, à part ça, il y a quand même des gens qui font du machine learning sur le climat, c'est-à-dire faire, il y en a au labo où je suis, c'est-à-dire qui essayent d'appliquer les outils de l'IA, donc du deep learning, pour mieux prédire les extrémas du climat, quoi. C'est-à-dire les canicules, est-ce que, voilà, à quoi il faut s'attendre si le climat monte de 2 degrés, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ville par ville ou région par région, et ça, on ne sait pas du tout, en fait. Enfin, on a assez peu de billes là-dessus, et donc il y a des gens qui disent, il faut qu'on continue à modéliser, il faut qu'on continue à dépenser de l'énergie quand même, et à émettre du CO2 pour mieux caractériser ce qui va nous arriver. Bon.
C'est une réponse à Eric, mais elle est
en partie.
Au sens où c'est des choses qui ne marchent pas encore vraiment.
Non, effectivement, je suis d'accord.
C'est spéculatif, mais c'est vrai que dans l'intérieur du monde académique, il y a vraiment cet espoir qu'on va pouvoir découvrir des nouvelles lois de la physique, qu'on va pouvoir, en étudiant les données, faire émerger automatiquement des trucs qu'on n'a pas vus. Il y a des gens qui s'entraînent, par exemple, à essayer de refaire les expériences d'astronomie du 19e siècle pour faire découvrir Neptune à partir des données. Des données
sans les lois de Newton, quoi, c'est ça.
Voilà, ouais. C'est ça. Et on en est là. Mais il y a des gros espoirs qui sont mis là-dessus. Mais c'est de la promesse.
Ouais. Mais j'ai l'impression que quand même beaucoup de chercheurs se disent l'IA c'est quand même un truc d'ingénieur, c'est-à-dire que parce que c'est tellement une boîte noire que de toute façon même si on arrive par de l'IA à prédire l'existence de Neptune, mettons qu'on prenne cet exemple-là, bah en gros est-ce que ça sera pas, enfin le sens de ce truc-là sera caché dans les millions de paramètres de l'IA et en fait c'est un peu comme aux échecs, enfin je sais pas si vous avez regardé, moi je jouais aux échecs quand j'étais gamin et là il y a eu AlphaZero donc qui est un programme qui a appris à jouer aux échecs tout seul, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a vraiment mis les poids entre neurones en jouant contre lui-même, c'est-à-dire la seule règle qu'on lui a donnée, enfin on lui a donné les règles des échecs évidemment, mais aussi la fonction objective c'est gagner, bon, donc faire échec et mat. Donc avec ça, ça suffit pour entraîner, et c'est vrai que quand même là, honnêtement, moi j'ai regardé les parties qu'a joué AlphaZero contre Stockfish, qui était l'ordinateur champion du monde, qui de toute façon est bien meilleur que le meilleur homme depuis longtemps déjà, mais et AlphaZero, la manière qu'il, elle, je ne sais pas comment il faut l'appeler, a de jouer est quand même assez bluffant. Hein. Honnêtement, donc pareil au Go, il paraît, mais bon, moi, je ne suis pas capable d'apprécier au Go, mais aux échecs, je suis capable d'apprécier un petit peu un style, entre guillemets. Et ben, c'est quand même assez impressionnant ce que ça fait, cette bestiole-là, aux échecs, honnêtement.
Que là, on est vraiment dans le cas, justement, d'un truc complètement cadré.
Ah, complètement, oui, bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr. Non, mais bien sûr.
Bien sûr,
tout à fait. Oui, bien sûr. Ouais. Mais disons qu'intelligence artificielle, on dit que c'est un terme parapluie, c'est-à-dire qu'en gros, on utilise ce terme-là pour justement pouvoir mettre sous le même parapluie des trucs qui n'ont rien à voir comme les échecs et le reste, en fait. Oui, bien sûr, non, mais c'est un problème, bien sûr.
C'est un problème de vocabulaire, parce que...
Bien sûr.
En fait, ce que ça fait en vision, c'est de la reconnaissance du pattern que j'aime. Point, ça
devrait être intelligent. Oui, c'est un terme marketing, IA, ouais.
Oui. C'est dommage en fait. Parce que,
oui, je suis d'accord.
Ça permettrait
déjà de gagner une partie. Non, oui, c'est vrai. Non, mais c'est un terme, disons, ça a été vraiment, on sait quand ça a été décidé dans un congrès.
C'est
voilà,
associé à des imaginaires de Hollywood.
Mmh. On dit beaucoup de data science.
On ne peut pas en discuter, quoi, vraiment.
En informatique, on dit beaucoup, c'est pas mal, on dit beaucoup de data science et tout ça. Oui, effectivement, IA, ça va être les gens qui essayent de faire un truc intelligent, donc un être indépendant. Enfin,
non, mais moi, ce que vous expliquiez tout à l'heure, en fait, sur les systèmes de modélisation du climat, etc., machine learning, ça doit être une des techniques, mais la modélisation, non, c'est avant ça. Enfin, là, on travaille sur plus de données. donné, donc ça permet juste de, d'affiner les modèles, mais enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça change vraiment quelque chose. Ça changerait quelque chose si on laissait les systèmes prendre des décisions de manière autonome, hein, ce qui n'est pas le cas, donc
Non, mais on pourrait imaginer.
Ça serait ça, en fait, le truc. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui serait vraiment problématique, c'est s'il y avait effectivement des prises de décision automatisées déclenchées par ces boîtes.
Bah, je crois qu'à la bourse, quand même, c'est à 90% des transactions financières qui sont faites. Voilà, mais même en justice, en fait, il y a des algos, il y a déjà des choses comme ça qui se font.
Il y a des choses automatiques.
Oui.
Mais c'est pas forcément
Les gros contributeurs sur Wikipédia, c'est des robots. Hein, mais c'est des programmes.
Oui. Oui, ou sur Twitter, ou sur etc. Oui, qui font des trucs. Oui, oui. Oui, mais qui ne sont pas. Non, mais IA, c'est clairement un terme marketing, ça a été fait comme ça, et donc il faudrait trouver des meilleurs termes, ça, je suis d'accord, c'est important.
Mais du coup, si vous parlez de réseaux de neurones, en fait, c'est ce dont vous parlez.
Oui, tout à fait.
Après, ce qui est intéressant, c'est aussi cette espèce de boucle historique où on a l'impression que donc IA pose un peu les bases du néolibéralisme, en tout cas, le fait de mettre le marché à la, disons, à la tête de l'organisation d'une société. Le résultat est justement le problème qui ferme votre livre. Hein. Vous dites, effectivement, là, on a à régler un problème qui nous tombe dessus, qui est justement le dérèglement climatique, le chaos climatique, etc. Et qui serait peut-être le résultat, en fait, de ce modèle d'organisation sociale de Hayek. Et c'est avec, du coup, si je comprends bien, les réseaux de neurones et le machine learning que c'est là-dessus qu'on mise nos espoirs pour essayer de trouver une solution, par exemple. C'est pas exclusif, mais disons, ça, dans la discussion, c'est un peu ça qui est posé. Et l'inspiration est commune, c'est-à-dire que, en fait, c'est avec le. C'est comme si on posait une solution technique qui serait issue de la racine commune avec une idéologie qui nous a menés par nous. C'est ça qui est étrange, en fait, dans cette. Pour revenir aussi dans le jeu et le perceptron.
Non, mais je. En fait, j'ai dit que j'étais. En gros, je trouvais aussi mauvaises les deux. Mais du coup, effectivement, il faut inventer des choses beaucoup plus subtiles que ça. Donc, c'est caricatural de dire il y a les deux options. Soit on fait de l'IA pour coordonner et contrôler la société et permettre de passer à 10 milliards, etc. Avec une société industrialisée, on va dire. Soit on va... on débranche tout et puis on reste à 10 millions. Enfin, je dis,
mais
donc ça...
Une influence idéologique qui persiste, quoi.
Oui, c'est un peu comme... Là, je vois la question. Oui, c'est ça. Non, je suis d'accord, oui, effectivement. Encapsulé dans les réseaux de neurones, effectivement, il y a cette idée de... Enfin, c'est commun, en fait. Alors, qui est le premier qui a déterminé l'autre, ça, c'est pas très clair, effectivement. Est-ce que c'est vraiment Hayek? Enfin, parce que Hayek, en fait, a travaillé... Enfin, disons, le connexionnisme et tout ça, c'est pas que Hayek. Hein, c'est Hebb, c'est d'autres gens. Et donc, c'est pas... Enfin, voilà. C'est pas le connexionnisme qui est à la base du marché, à la justification. La justification du marché et même de l'idée que le marché respecte la complexité et qu'il ne faut pas essayer de construire des trucs trop rigides, style planification, parce que sinon ça ne va pas marcher, c'est bien avant le connexionnisme aussi. C'est Adam Smith déjà, il utilise d'ailleurs l'image du jeu d'échecs. Il dit, voilà, en fait, penser que la société, c'est comme un jeu d'échecs où on peut bouger les pièces comme on veut, c'est oublier que les pièces dans la vraie société ont envie de bouger, elles, selon leur propre volonté, et que donc, c'est risqué de faire ça. Donc, je ne vois pas de causalité simple comme ça d'une qui mènerait les autres, en fait. Donc, ce que je vois, c'est plus cette idée de complexité du monde qu'en gros, on a quand même appris à respecter quelque part, enfin, en tout cas conceptuellement. Même Hayek, en tout cas, il l'a montré, même si après, il est pas du tout conséquent voilà, avec ses positions. Je vois pas de leçon simple à en tirer, en fait. Malheureusement, ça aurait été plus pratique, effectivement, de se dire, ben voilà, du coup, tac, on a découvert que réseau de neurones, c'est du marché, donc il faut pas faire du réseau de neurones. Non, je pense que il faudrait chercher un peu plus côté, comme je disais, spontanéité, complexité du vivant. Enfin, il y a des gens qui creusent pas mal ça en ce moment, et je pense qu'il y a des trucs à chercher là-dedans, mais je suis pas allé jusque-là, en fait. Donc, je ne sais pas quelle serait la leçon à en tirer. Je ne crois pas qu'il y en ait une de très claire. En tout cas, moi, je ne la vois pas. Mais si vous avez... je suis preneur, hein, si. Ça serait bien.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un effet d'accumulation. C'est vrai qu'on retrouve aussi de la division du travail dans le principe du perceptron qui découpe et qui va tourner en boucle, en fait, mais sur des micro-tâches, en gros... une manière de différencier en fait de les chats des chiens disons et ce qui fait que il y a aussi cette influence là, mais c'est vrai que quand on y pense, il y a quand même une convergence comme ça, d'éléments économiques, de pensée économique qui vont se retrouver. Alors évidemment c'est peut-être simplifié en fait d'imaginer du coup que cette technologie n'est pas neutre. Et je ne sais pas quoi trop en tirer non plus.
Ouais, moi, disons, là où je vois la non-neutralité, c'est plutôt ce que j'ai dit là. Disons qu'en gros, une IA pour marcher, un réseau de neurones, il faut qu'il y ait des millions et des millions de données. Et il faut qu'il y ait quand même des ordis assez puissants et assez consommateurs, du coup. Sinon, en gros, ça ne sert à rien, les réseaux de neurones. Quoi. Enfin, pour que ça dépasse vraiment d'autres types de modélisation, il faut vraiment passer à cette échelle-là, quoi. Donc ça, c'est vraiment le côté un peu spécifique que j'ai trouvé de l'IA. Hein. Donc tant qu'on n'a pas ça, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a peut-être des domaines où on a ça et que ça pourrait peut-être servir. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai un collègue qui a passé beaucoup d'années en Chine et qui, lui, a une vision qui est quand même la Chine. Alors bon, évidemment, avec tout le côté dictature au sens, un peu... nuancé, mais bon, quand même, mais il y a quand même cette idée de planification et de mettre le marché au service d'objectifs qu'ils se sont fixés. Bon, on n'est pas la Chine, hein, mais il y a quand même un truc où il y a une sorte de direction commune, de dire, ben voilà, on va aller dans ce sens-là, et le marché est un outil dans ce truc-là, ce qui est quand même quelque chose qui nous manque beaucoup, quoi, et je pense. Et ils veulent mettre l'IA aussi au service de tout ça. Alors, effectivement, le crédit social, là, ce qu'on voit là, c'est que donc, ce scoring, là, chaque fois qu'on fait des bonnes actions ou les mauvaises actions, etc., c'est le truc qui fait vraiment peur. En même temps, d'après ce que lui me dit, ça ressemble beaucoup en fait au crédit scoring qu'on a ici aussi. Quand on demande un crédit, on a un truc pareil, en fait, sauf que c'est un peu plus... on en parle moins. Mais bon, là-bas, comme le système bancaire était naissant, etc., donc ils sont passés par d'autres voies, mais il dit, voilà, maintenant, si on doit, compléter, en gros, le contrôle budgétaire, hein, parce qu'aujourd'hui, on a un certain salaire, on ne peut pas tellement dépenser plus. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le futur, il va y avoir la même chose avec le carbone ? C'est-à-dire, on va avoir droit à, je sais pas, 2 tonnes de CO2 chacun, et puis voilà, il va falloir mesurer ça. Et il va falloir mesurer l'impact. On peut imaginer plein d'autres trucs comme ça. Bon, est-ce qu'on peut faire ça sans outils numériques ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la bonne réponse.
Moi, j'avais une dernière petite question.
Enfin, ouais. Ouais.
Je ne sais pas si peut-être avant, mais en fait, alors c'est une question qui est un peu. Je suis un peu désolé parce qu'elle est un peu en dehors de la conférence, parce qu'elle vient plutôt de la lecture du bouquin. Mais à la fin du livre, en fait, vous convoquez la figure de Stefan Beer.
Ah oui.
Vieux cybernéticien qui a travaillé sur le projet CyberSyn, notamment au Chili. Moi, je trouve ça intéressant, et justement plein de. Évidemment, là ça pose une sorte de problème de c'est un problème intéressant, c'est-à-dire effectivement un cybernéticien donc, qui est vraiment dans cette logique, on va dire, justement de contrôle avec un ordre à partir du système machinique d'apprentissage, de machine learning, où la gouvernance en fait est distribuée, enfin, justement sur des architectures hein, parfaitement déterminées. Et en même temps, justement, qui est quand même une figure qui est complètement antinomique à celle de Hayek dans l'histoire qui est tissée. Alors, je me posais plein de questions, justement, sur. Parce que, en fait, c'est, voilà, il arrive en ouverture, comme ça, et puis c'est super joué de le voir, on est là, ouais, super. Et d'une certaine manière, j'aimerais bien, en fait, juste un peu pousser ce point-là, c'est-à-dire pour voir un petit peu le type d'imaginaire, parce que c'est vrai que c'est une figure qui est connue pour Cybercine, mais peut-être pour beaucoup moins, par exemple, que Norbert Wiener ou, je sais pas, von Forster, etc. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup moins en fait ces positions. Et je serais super intéressé en fait pour peut-être justement en termes d'ouverture peut-être revenir sur sur sa pensée à lui et qu'est-ce qu'il vient faire là dans cette
position. Donc Stafford Beard, oui, c'est un des grands cybernéticiens anglais. Ok. Alors dans un bouquin d'Andy Pickering, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Sketches of Another Future, the Cybernetic Brain, je crois que c'est le titre. Il y a vraiment un gros chapitre sur Beer. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses sur Stafford Beer. Pickering est très séduit par Stafford Beer. Il défend même Cybercine. Enfin, il défend vraiment tout ça. Et en fait, ce que je conseille vraiment, c'est de lire le bouquin que je cite, là, qui s'appelle Design in Freedom, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, c'est un bouquin de 73 de Stafford Beer, où en gros, il décrit Internet. Il a même une image où un mec qui est assis comme ça dans un fauteuil et qui dit Ah oui, bah tiens, je voudrais écouter tel truc, et puis je voudrais écouter tel machin. Enfin bon, c'est YouTube, quoi, si on veut. Mais en 73, et il dit, voilà, c'est ça qu'on devrait faire avec les ordinateurs, et puis pas des modèles à la noix où on réduit la variété. Enfin, en fait, il faut utiliser les ordinateurs pour ce qu'on appelle augmenter la variété, c'est-à-dire, respecter la richesse de chaque individu grâce à ces ordinateurs qui sont capables justement de ne pas juste faire le même truc pour tout le monde en fait. Et c'est des outils numériques et Beer, il a une vision super progressiste on va dire et peut-être naïve on dirait aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, en 73, ça fait 50 ans quoi. C'est ça.
Parce que Vannevar Bush en 45, il dit exactement la même chose.
Ouais,
il raconte avec exactement la même chose. Sur son un dispositif pareil, une espèce de bureau qui lui permet d'accéder.
Ouais, oui.
Alors lui, il imagine ça sur des microfiches, sur etc. Il n'a pas les technos en tête. Mais cette projection d'un environnement informationnel apporté, permanente, qui permet aux individus de décider, d'être éclairés en fait dans leurs décisions en permanence, mais libres aussi parce que personne ne prend leur place. C'est des images qui ouais, là pour le coup, 30 ans avant, en 45, Vannevar Bush raconte exactement la même chose.
La même chose.
Et lui-même en fait ne fait que décrire ou déployer une idée qui est là, qui le précède dans les années 40. C'était pour le coup, voilà, c'est ce que raconte Turner dans son bouquin sur le Democratic Surround. On est en pleine guerre. En Europe, c'est les fascistes qui sont au pouvoir, ils ont gagné, ils occupent le terrain avec la propagande. Comment est-ce qu'on lutte contre la propagande? Comment est-ce qu'on lutte contre la propagande? En l'occurrence, lutter militairement, économiquement, etc. Comment est-ce qu'on fait tourner une société et qu'on la rend assez puissante pour affronter et vaincre les fascistes? Sans utiliser leurs outils, la propagande, la voix qui descend et qui dit voilà comment il faut faire. Et à l'époque, Roosevelt, il convoque des gens, il leur dit inventez-moi une méthode. Et il fait venir tous ceux qui vont remplir ensuite les conférences Messi dans les années 50, ils sont là et ils lui disent eh bien, alors la méthode, ça va être de d'offrir le choix, de leur proposer le choix. De leur donner tout un panel et on les laissera faire. Et quand le panel, si on compose le panel correctement, et ils vont choisir correctement.
D'accord. C'est, d'accord. Voilà. Ouais, c'est de variété là dont on parle.
C'est cette fameuse variété, ouais, exactement. Et d'où est issue d'ailleurs la première des expérimentations, c'est le MoMA.
Ah oui, d'accord.
C'est okay. Les dispositifs muséographiques où on présente effectivement non plus des alignements d'accrochage comme ça, séquentiels, et où on parcourt des galeries, mais où on a des dispositifs de tous les côtés, on peut s'intéresser à un coin, d'aller à l'autre, et machin. Et ça a été l'arme entre guillemets de propagande anti-propagande pour mobiliser les sociétés dans la lutte contre le fascisme, puis contre le soviétique aussi. C'est la première exposition universelle qui se déroule à Moscou. Première chose que montrent les Américains, c'est pas leur armement. Hein. Ils vont pas débarquer en disant on va vous mettre une peignée. Ils débarquent avec l'American Way of Life présenté dans tous ces dispositifs muséographiques qui sont dans ce Democratic Surround, comme le Turner.
D'accord.
Cette vision là, elle est là déjà effectivement avant même que les ordinateurs soient là, avant que le numérique soit là. Par contre, le numérique, évident,
il va s'engouffrer là-dedans, quoi.
C'est le terrain, parce qu'on n'envisage pas de faire des réseaux de neurones autrement qu'avec des ordinateurs. Alors que Rosenblatt, il branche des câbles, quoi. Il branche des fils. Il n'envisage pas d'utiliser les ordinateurs de l'époque, parce que ça n'a aucun sens pour faire ce qu'il veut faire. Mais aujourd'hui, grand renversement, on n'envisage pas de faire de l'IA
avec
d'autres dispositifs techniques que des ordinateurs.
Oui, en gros, le terrain ou les tuyaux étaient déjà prêts pour que l'ordi et le numérique et la flexibilité du numérique comme ça s'engouffrent dedans, en fait, c'est ça.
Parce que le numérique offre quelque chose qui ne se préoccupe pas de savoir à quoi ça sert. À quoi ça sert dans le sens à quel contenu le calcul est destiné. C'est une puissance de calcul.
Les maths, tout court. Les maths, c'est pareil.
Ouais. Sans qualificatif. Sans qualité propre. C'est de la puissance de calcul. Maintenant, t'as un truc, t'as réussi à le décrire comme un calcul, eh ben, gaffe.
Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a réussi à l'abstraire, enfin à avoir un truc abstrait, on peut. Ouais. Et donc ça, c'est dans Turner, en fait, qui est vraiment. D'accord. Oui, non, c'est intéressant, effectivement. Ouais. D'accord. Oui, c'est super intéressant.
T'as pas ça avec tous les outils qui n'ont pas une destination. Tu fais un marteau, tu veux quelqu'un, tu veux faire quelque chose. Et en plus, j'ai l'impression qu'on en a un petit peu là. J'ai l'impression que moi, je suis toujours en train de faire des réseaux de neurones, parce que c'est l'IA, parce qu'on en est vraiment. J'ai fait tomber un silex, il s'est cassé un chien, il y a un côté coupant, je m'en sers. On en est vraiment à des trucs balbutiants, hyper approximatifs, hyper avec des mufles. Et puis effectivement, il y a les ressources limitées de la planète qui se mettent en travers et qui posent des questions, est-ce qu'on va aller plus loin. Et on est un petit peu en train de se demander à quoi ça sert, comme si on avait cassé un silex et qu'on s'en servait d'un côté tranchant pour. Je sais pas, pour découper une peau de bête et qu'on se demandait où ça allait nous mener. Ça va mener loin, quoi. Si on s'arrête en cours de route ou si on nous arrête en cours de route. Et c'est vraiment, c'est intéressant, l'émoi que ça crée, cette histoire d'IA et de jeu d'échecs et tout ça, parce que c'est vraiment. C'est vraiment le tout début, c'est vraiment le balbutiement de quelque chose. On comprend rien à ce qu'on fait, on met des poids. Au pif, qu'on réarrange au pif avec des équations qu'on a sorties au pif avec des calculs qu'on fait sur des ordinateurs implémentés comme on peut. Quoi. Enfin, c'est vraiment, ça reste vraiment du super bricolage. Il y a aussi ça, la question de c'est quoi un réseau de neurones? Non, enfin, je sais pas, c'est pas petit moment ça existe, mais ça fait 10 ans qu'on en fait tourner. Quoi. C'est quoi un réseau de neurones dans 10 ans? Peut-être que dans 5 ans, il n'y aura plus de réseau de neurones, peut-être que dans 10 ans, il y aura encore. Yeah.
C'est ce qu'a fait la nature pendant des millions d'années, de bricoler, et puis à la fin on a convergé vers un truc qui nous permet d'avoir cette conversation.
Ouais, converger, c'est pas, on n'a pas convergé, non. Non,
ouais. C'est compliqué.
C'est ni la fin ni converger, mais bon.
Je suis arrivé tardivement, mais non, je suis pas. pense que là, il y a peut-être un moment où il faut clore, mais il y a un truc, j'ai raté là, trois quarts ou la moitié, mais le monde sur Marika qui faisait écho à la non-neutralité remarquée par les réseaux neurones actuels tels qu'on les connaît. En anglais, on les appelle souvent ANN, réseaux de neurones artificiels, parce qu'ils sont loin d'être identiques, proches de ce que l'on dit biologique. Mais actuellement, là, il y a un retour de recherche qui était déjà pratiqué dans les années 90 sur l'encodage temporel, et les réseaux neurones actuels fournissent que juste une valeur, entre 0 et 1, ou alors peu importe, mais un nombre à virgule. C'est tout. Ils ne vont pas plus loin, alors qu'un réseau, un neurone réel, artificiel, biologique, va envoyer des impulsions. C'est une grande différence. Actuellement, ça, c'est un acte de recherche qui est en train de faire un retour, le codage temporel. Pourtant, c'était déjà évoqué dans les années 90. Et vers 98, on s'amusait aussi déjà en informatique à emprunter des modèles biologiques comme la diffusion du monoxyde d'azote dans le cerveau, qui est un neurotransmetteur essentiel pour la cognition, du moins pour le fonctionnement. Et puis, ils se disaient, bah, ça pourrait servir. Donc, il y a des gens qui bossent là-dessus, et les réseaux de neurones qu'on connaît actuels, artificiels, bah, finalement, ils aboutissent. Ils veulent tendre chez certains. On parle même de connectome, de scan, de dump, de brain dump, un truc comme ça. Il y a une envie chez les savants fous de reproduire le cerveau humain. Donc, si on dit que les réseaux de neurones actuels sont embarqués avec eux, une empreinte initiale motivée par la loi du marché, donc ils sont en train de convertir vers le cerveau, enfin, d'aller vers le cerveau humain, parce que le jour où on aura un cerveau artificiel équivalent à celui d'un humain, on va dire que c'est mal à neurones. Et on voudra arrêter d'avoir des neurones parce qu'ils embarquent avec eux les germes d'un projet malsain.
Ouais, mais on a, enfin, ça sert à rien de faire le cerveau humain, on l'a déjà en fait, c'est pas celui-là qu'il faut faire.
Ils ont
mieux que ça à faire.
Il y a des modèles animaux très simples à considérer avant de parler de certains vers, qui ont des systèmes nerveux avec quelques centaines de. On est absolument incapable, même avec juste quelques centaines de neurones, de reproduire le fonctionnement d'un système nerveux.
Oui, mais non, mais je pense que la vraie, enfin oui, la question, c'est effectivement, on a une sorte de projet là, comme disait Mathieu aussi, disons d'avancer, et puis en fait, on se heurte quand même aux limites de la planète, ce qui n'était pas prévu quand même depuis, on le sait depuis une cinquantaine d'années, quoi, en gros, mais pas, je veux dire, à l'échelle du projet. Là, j'étais à un colloque ce matin, là, il y avait des trucs sur le néolithique, enfin, etc. Tu vois, quand tu regardes l'humanité à cette échelle-là, tu te dis, c'est vraiment un truc se prendre la porte dans la gueule, vraiment, d'un coup, quoi. C'est vraiment super récent, pas à l'échelle du... Bon, et donc, voilà, on se prend la porte dans la gueule, on est un peu sonné quand même, quoi. Et bon, il faut, je sais pas. C'est...
Ça n'a pas permis de faire comme si on avait... Comme si on était néolithique.
Si ça va de refaire le cerveau humain, on s'interdit les greffes d'un plan.
Mais surtout, si on n'y comprend rien, si tu regardes la biologie moderne, tous les jours on découvre des trucs supplémentaires, on découvre l'influence de d'autres cellules que les neurones, on découvre qu'il y a des influences incroyables, ce qu'on pensait vraiment localiser dans le cerveau et en fait partager avec le patron microbiote intestinal. Il y a des choses qui sont tellement plus compliquées qu'un simple réseau que ça semble un petit peu naïf de vouloir copier
ça vous gêne
sûr. Oui, bien sûr, mais disons que c'est vraiment le tout début de quelque chose et ça restera A et M après.
Ouais. Ah, mais le problème n'est pas tant de. Enfin, qu'ils n'y arrivent pas ou que. qu'on n'arrive pas à reproduire le fonctionnement du cerveau. Est-ce que ça empêche ou est-ce que ça n'a jamais empêché ceux qui développent des réseaux neuronaux ou des applications ou d'autres. Il y en a d'autres qui continuent à travailler sur des modèles symboliques et symbolistes. En parallèle, et qui disent de toute façon, il y a un moment, vos réseaux de neurones, ils vont arriver à leur limite, et puis vous allez voir que ça ne progressera plus, puis nous, entre-temps, on aura fait dans notre coin. Et ce ne serait que le renversement de l'histoire, d'ailleurs, du collectionnisme,
qui a été,
occulté pendant des décennies, parce qu'on n'avait pas justement la puissance de calcul. Et la puissance de calcul et les masses de données accumulées. Parce qu'il est inenvisageable de faire ce qu'on fait, entre guillemets, de l'IA aujourd'hui avec le deep learning, sans qu'au préalable, pendant 10 ans, des acteurs comme Google, Facebook et je ne parlais que des plus visibles, accumulent des masses fantastiques de données, comme ça au fil de l'eau de leur propre activité, sans savoir des jours d'ailleurs.
Oui, quoi en faire, oui, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'ils en feraient au bout du compte? On accumule ces données-là.
Il n'y a pas longtemps,
on les jetait. Ouais, on ne sait pas. C'est vraiment le truc. Tu veux dire, quand tu participes à un. Quand on a eu l'occasion de faire quand même plusieurs projets informatiques, entre guillemets, en amont, les gens sont là et posent qu'est-ce que ça va être les spécifications de notre système. Et quand on. Alors on fait ci, on fait ça, oui, ok, d'accord, mais pourquoi? Ça va servir à quoi exactement ça? Pourquoi est-ce que tu veux ça? Pourquoi est-ce que tu le veux dans. Pourquoi est-ce que tu le veux dans toutes les couleurs alors que fondamentalement tu as besoin qu'il y ait du rouge? Et en fait, c'est parce que c'est possible. Bam. Et ça, c'est ce cumul, c'est cette accumulation qui amène à ce qu'à un moment, de toute façon, sur cette trajectoire-là, si tu envisages que tout le temps, il y aura un moment où ça servira à quelque chose. Et qu'il faut préserver cette possibilité, donc les fameuses, cette fameuse pseudo-liberté d'Hayek, qu'il ne faut pas, surtout pas empêcher ceci, cela, non, parce que sinon tu vas bloquer le chemin de la solution potentielle que tu as. Mais en fait, c'est pas vrai. Tu ne bloques pas le chemin de la solution potentielle, tu bloques les nuisances à venir en disant non, on va se limiter. Non, ça, on ne va pas le faire. On va décider qu'on ne le fera pas.
Voilà une bonne conclusion, bonne conclusion. Non, mais c'est celle-là, oui, c'est très bien.
Non, du coup. C'est super conclusion.